Je vais sortir là, allez là.
Sortez, ça fait trop du bien.
Ça fait dégourdir
les jambes, allez-y.
J'adore ça, moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous, bordel.
Ça fait la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête, allez-y, sortez.
Mais sortez, franchement, c'est trop chouette. C'est trop intéressant. Allez-y, quoi.
Sortez,
vous voulez sortir?
Écoutez,
sortez.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sors !
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme toujours accompagnée de mon cher coéquipier Samuel. Bonjour Samuel.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Appéré de l'ensemble PTIX et Elsa Maupeux de la structure Iceberg, qui organise à Tours une déambulation sonore organisée en période de Noël et à l'international. C'est Unsilent Night. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Et donc, Unsilent Night, ça se passera ce jeudi prochain, le 19 décembre, à 18h, au départ du jardin de la préfecture, c'est bien ça.
Ouais.
Et autre actualité, l'ensemble PTIX sort un album intitulé Nous.
Nous. Ouais, peut dire les deux.
T'avais raison. Qui sort aujourd'hui. Et du coup, première question, qu'est-ce que Unsilent Night et qu'est-ce qui attend les participants de cette édition Tourangelle 2024?
Je vais laisser Elsa répondre parce qu'on avait fait une petite version il y a quelques années et faisait partie du convoi.
Donc, Unsilent Night, ça a été créé par un Américain, Klein.
Phil Klein. C'est ça.
Donc, l'idée, en fait, c'est que les personnes qui vont venir, en fait, vont être actives, elles vont participer. Donc, on propose une... ce compositeur a créé une musique et qu'on peut mettre, en fait, à quatre versions.
Ouais,
en fait, on met quatre. Les gens sont disposés en quatre groupes et chacun a sa version, sa composition. Et donc, l'équipe artistique, en fait, est là, mène la déambulation, parce que c'est une déambulation, c'est un élément important. Donc, c'est aussi une autre manière de voir la ville. Et chacun, comme aujourd'hui, beaucoup de gens ont des smartphones, on demande aux gens de télécharger sur leur smartphone un extrait, en fait, une partition. Donc, il y a quatre partitions. Et ensuite, pendant cette déambulation, en fait, c'est les téléphones. Et puis nous, on a des enceintes qui font qu'en fait, ça produit en fait cette musique collective, enfin qui émane finalement de l'objet des personnes. Donc en fait, les gens sont autant spectateurs, mais aussi acteurs. Et l'idée, c'est qu'aussi, ils profitent d'une déambulation et ils regardent aussi la ville autrement. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ça reprend. On est vraiment sur le mois de décembre, sur le côté un peu Noël, avec les cloches. Festifs. Donc ça reprend un peu ces sonorités qui nous sont habituelles, mais qui finalement sont vues au prisme un peu de la musique contemporaine. Donc ça permet à un moment donné, quand on traverse des lieux, quand on passe à côté, par exemple, de la cathédrale ou autre, on entend différemment, ça fait résonner. Donc c'est une balade qui dure à peu près une heure et ensuite ça se termine par un moment convivial. On propose chocolat chaud, une boisson chaude et de quoi se restaurer. Donc c'est vraiment plutôt un partage et une mise en action de tout le monde. Et ce qui est assez drôle, c'est que finalement aussi le groupe, le petit groupe qui se déplace devient finalement comme un chœur, un chœur qui d'où émane une musique. Et c'est vrai que les gens dans la rue se retournent, c'est un moment assez étonnant. Voilà, exactement.
Et alors c'est l'ensemble PTIX qui a introduit cet événement en France, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est assez inédit. Comment est né le projet?
En fait, on pourrait dire que tout vient d'Éric Satie. Alors j'en parle d'autant plus parce que l'année prochaine, on fêtera les 100 ans de sa disparition. Et quand l'ensemble TIX a commencé il y a maintenant plus de 15 ans, c'était une figure, que je pense que tout le monde a entendu un morceau de piano d'Éric Satie. Et en fait, c'était une figure qui était très importante pour nous parce qu'elle était un peu décalée dans son coin, pas vraiment dans les courants de l'époque. C'était un personnage assez fantasque. Et quand on a cherché à cette époque qui avait été influencé par Éric Satie et qui aujourd'hui dans les compositeurs, les compositrices se revendiquaient d'Éric Satie, il y avait très peu de Français. En fait, bizarrement, alors comme si c'était un héritage, on ne sait pas trop quoi en faire, parce que peut-être c'est de la musique trop facile, trop populaire. Et on a découvert qu'il y avait beaucoup d'Américains voilà, avec qui on a travaillé. Qui, alors, les noms peut-être diront rien, c'est William Duckworth, Kyle Gann. Et tous ces gens-là, en fait, adoraient Eric Satie et le disaient très, 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 très haut et fort qu'ils revendiquaient, oui, Eric Satie, l'influencer John Cage. Et nous, on aime beaucoup cette manière d'appréhender la musique, qui est une musique différente dans la ville, qui est une musique qui occupe l'espace sonore. Et donc, Phil Klein, dont on va proposer le Silent Cloud, en fait, c'est quelqu'un qui est dans cette filière d'une musique qui est un peu différente, qui n'est pas la musique des salles de concert, on va dire élitiste, ou en tout cas des fois un peu bourgeoise, avec un public qui est toujours le même. Mais c'est quelqu'un, au contraire, qui a essayé de démocratiser de la musique pour tout le monde, mais de la musique qui reste quand même de la musique classique. Et voilà, moi j'ai découvert son Silent Light il y a déjà une dizaine d'années, et le rêve c'était un jour de le faire. Et puis voilà, le rêve s'exauce.
Et donc, toutes les villes ont le même cahier des charges partout dans le monde.
Ouais, il y a quelque chose qui est très, très précis. C'est-à-dire qu'on est en contact vraiment avec Phil Klein et son équipe. On signe un contrat de licence. Donc, on ne peut pas le faire dans notre coin à la va-vite. Parce qu'en fait, comme disait Elsa, les quatre pistes du morceau sont disponibles sur Internet. Tout le monde peut aller les écouter. Voilà, il n'y a aucun souci. Mais là, vraiment, on devient en fait un peu délégué par Phil Klein pour représenter sa musique. Donc, il faut, on va dire, montrer patte blanche, dire que, comme le disait Elsa, qu'il y a vraiment un encadrement, qu'on ne laisse pas les gens se débrouiller, mais qu'il y a des professionnels autour, ce qui sera le cas la semaine prochaine. Et qu'on a aussi une habitude de travailler avec du public dans l'espace public, justement, et d'imaginer des sculptures sonores. Donc, on signe un contrat, ce qui nous permet d'être dans la liste. Alors, je ne sais plus, cette année, il doit y avoir 20 ou 30 villes. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert... d'ailleurs, comme un autre événement qu'on fait en hommage à Kate Bush, qu'en France, en fait, ça ne parvient pas. Donc, on est les seuls, ce n'est pas parce qu'on veut être unique, c'est juste qu'on veut dire faites-le partout, en fait. C'est trop génial.
Et c'est un événement, c'est important, qui sort vraiment qu'au mois de décembre. Ce n'est pas toute l'année. Voilà, c'est vraiment lié, c'est spécial. Voilà, c'est ça, c'est important aussi. C'est vraiment dédié à ce mois avec tout ce que ça... Tout l'imaginaire, un peu les féeries et autres.
Et c'est donc tout un réseau de villes de partout dans le monde qui prend part à cet événement de déambulation sonore. Phil Klein, c'est un compositeur donc américain qui est né dans les années 50. De quoi se compose son œuvre ?
C'est très varié. En fait, c'est quelqu'un qui vient plutôt du rock et du rock plutôt alternatif. Voilà, pour donner un exemple, son premier groupe, alors qui est vraiment complètement underground, qui s'appelle The Del Byzantines, qui a fait un album et qu'on peut écouter, qui est assez, assez chouette. Le chanteur, c'était Jim Jarmusch. Voilà, donc ça replace aussi dans cette espèce d'avant-garde un peu new-yorkaise, un peu intello, mais près du public. Et donc, il compose des choses très classiques. Il y a des très belles choses pour quatuor à cordes, pour piano. Et puis, c'était quand même un aventurier. Il y a en fait, comment ça s'appelle à New York, il y a un quartier, le village ou un truc comme ça.
The Village,
c'est ça, ouais. Qui est un quartier, justement, un petit peu, les Américains disent downtown music, c'est-à-dire que c'est la musique un peu à côté, un peu qui cherche autrement. Et il est dans cette mouvance-là. Et très vite, en fait, ce qui l'a intéressé, c'est de faire de la musique, on va dire... un peu statique, je ne sais pas si les auditeurs, auditrices ont en tête des anciens albums de Sonic Youth ou tout ce qu'il y avait. Alors moi, je l'associe beaucoup à la noisy pop des années 90. Il y avait My Bloody Valentine, Jesus and the Mary Chain. C'est des groupes qui utilisaient les guitares, mais d'une manière assez nouvelle, avec beaucoup de choses très statiques, très saturées. Et lui, il adorait ça. Donc, il était guitariste. Donc, il l'a fait avec un autre compositeur qui s'appelle Glenn Branca. Ils ont fait des gros orchestres de guitare qui jouaient comme ça, avec beaucoup d'effets. Et puis, à un moment, il a voulu que ça s'adresse à tout le monde. Et donc, il a imaginé son orchestre de radiocassette de Ghetto Blaster. Donc, il a commencé un peu dans son coin. Et puis, peu à peu, il s'est dit, en fait, c'est génial. C'est un instrument que tout le monde peut avoir. Ça ne coûte pas cher. Dans les années 90, ça coûtait pas cher et tout le monde en avait. Et puis, tout le monde peut le faire à moindre coût et on va faire de la musique ensemble.
Et donc, en parlant de moindre coût, Unsolent Night, c'est un format qui peut être assez varié selon le nombre de participants et les différents facteurs environnants. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ?
Alors, là, pour cette session, on est en lien avec la ville de Tours. Donc, c'est la ville de Tours qui fait l'achat pour qu'on fasse cette proposition au public. Après, bon, voilà, on évoque un peu comment aussi on arrive à diffuser les œuvres. Et, vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, mais en tout cas, notre secteur culturel, on est en lien souvent avec beaucoup de collectivités ou des salles ou autres, mais en tout cas les collectivités pour notamment les festivités ou qui prennent beaucoup de propositions artistiques. Rien n'est évident, la période est très difficile, il y a beaucoup de coupes et beaucoup de budgets qui baissent et des propositions comme ça qui parfois, en fait, donc on a de la chance, là, la ville de Tours, le maintien, il l'assume, mais ça peut aussi ne pas exister quand, il y a beaucoup de, avec les coupes budgétaires, des propositions s'annulent au dernier moment. En fait, c'est aussi... c'est vrai que c'est important pour nous de proposer ça à tout le monde et vraiment que ce soit ouvert parce que c'est vraiment dans notre démarche. On a envie de démocratiser et vraiment de rendre accessibles ces musiques-là qui sont très connotées ou en tout cas où les gens ont l'impression que c'est pas pour eux ou un peu trop compliqué alors qu'en fait c'est aussi c'est joyeux, c'est participatif, c'est pas grave si on comprend pas tout, c'est pas grave en fait, c'est qu'est-ce qu'on vit ensemble. Donc c'est vrai que c'est important que ce soit gratuit et accessible, mais c'est vrai que forcément cette accessibilité, cette gratuité aussi, elle est en lien dans un système, on fait partie d'un ensemble, d'un modèle économique plus grand que nous. Et donc là, on est ravis que ça puisse se maintenir.
On remercie la ville parce qu'en fait, dans les contraintes, c'est vrai que nous, on adore jouer dehors, mais finalement, aujourd'hui, c'est devenu moins facile d'aller dans la rue et de jouer de la musique qu'à une certaine époque. Donc, il faut définir très précisément les axes qu'on va emprunter, que la police municipale soit au courant, que tout soit validé. Il y a tout un protocole, donc ça fait quand même plusieurs mois qu'on prépare le projet avec la ville. Il y a aussi l'incertitude de combien il y aura de personnes. Parce que si on est 30 ou si on est 150, ce n'est pas du tout la même gestion de foule. Puisque, comme disait Elsa, c'est... Alors là, cette année, on ne va pas traverser les marchés de Noël parce que ça posait vraiment des difficultés d'être sûr de pouvoir garder le groupe. Là où il y a des... Parce que c'est un jeudi soir, donc il y aura beaucoup de monde. Donc on emprunte des grosses artères très, 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 très peuplées, mais sans traverser les marchés de Noël. Et donc voilà, il y a ces contraintes à avoir. La vie, elle nous offre aussi la possibilité d'avoir une diffusion, et vous aussi, merci, on vous remercie, pour qu'il y ait le maximum de monde, parce qu'en fait, il n'y a pas de jauge, en fait, on peut être 10, on peut être 100, je crois que les plus grands regroupements, c'est justement à New York, et ils arrivent à 400-500 personnes, donc c'est très impressionnant, et c'est vrai que c'est la période de Noël, mais peut-être pour donner une idée, c'est un peu comme un carnaval aussi. C'est-à-dire qu'on défile, c'est bien si les gens viennent avec des bonnets de Noël, enfin vraiment dans l'ambiance de Noël. Et puis finalement, c'est pas de la samba, c'est pas une batucada, c'est un orchestre de téléphone connecté avec des enceintes, mais c'est un peu cet esprit-là.
Et Elsa, donc vous accompagnez sur la production de cet événement avec la structure Iceberg. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de l'histoire de votre structure et comment s'est créée cette collaboration entre vous et Ptix ?
Oui. Ma structure, donc Iceberg, est un bureau d'accompagnement d'équipe artistique. Donc on s'est créé il y a 5 ans maintenant. Avant, on était déjà dans le secteur, mais on n'avait pas ce parcours-là. Donc là, on accompagne en fait des équipes artistiques comme Ptix, mais comme d'autres, dans le théâtre et théâtre ou musique. Et en fait, on les accompagne pour produire, diffuser et puis pour développer leur structure. Donc c'est un petit peu notre travail au quotidien. Donc avec Ptix, on se connaissait depuis plusieurs années. Et puis quand l'ensemble a commencé un petit peu à vraiment travailler un peu plus ses créations, a eu besoin d'être un peu plus structuré, et que finalement la naissance de la structure est venue, on s'est re-rencontrés et puis on a commencé à collaborer ensemble. Donc ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille ensemble. Voilà, c'est aussi des rencontres, comme dans tout, et puis de savoir si voilà, on était les bonnes personnes, j'étais la bonne personne pour les accompagner, quoi, comment, et puis quelle était l'envie aussi de la structure. C'est vrai qu'on n'accompagne pas forcément un projet, mais vraiment une structure, donc ses projets, vers où elle a envie d'aller, sur quel territoire, comment, enfin, c'est toutes ces questions qu'on se pose, parce que c'est ça la création artistique, c'est que c'est pas que créer, c'est dans quelles conditions, pour qui, comment. Voilà, cette question bah, de jouer en espace public, c'est un élément qui ressort de plus en plus chez l'ensemble optique. C'est, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, jouer dans l'espace public depuis le Covid, depuis les attentats, Vigipirate, bah, c'est compliqué. Les arts de la rue, en fait, voilà, c'est compliqué. Donc ça... C'est voilà comment aussi on travaille là-dessus, comment on appréhende et puis comment on rend faisable et possible tout ça. Donc c'est assez stimulant, on va dire. Voilà, c'est vraiment des histoires de rencontres, j'ai envie de dire. Des rencontres autant humaines qu'artistiques.
Et donc comment l'Asberg intervient-elle dans la production d'Elsa Nathanet?
Bah là, dans les productions, c'est que j'accompagne sur des rendez-vous institutionnels. On va chercher de l'argent, on essaye de, voilà, de parler des projets, trouver des temps, alors, pas sur ce projet-là, mais pour d'autres, de résidence. Enfin, vraiment, c'est comment... Puisqu'on est une structure qui n'avons pas de lieu à nous, donc on va dans les lieux des autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça nous pousse à rencontrer les gens. Mais il faut aller... Mais il faut aller, voilà, aussi, il faut leur présenter les projets, il faut... Enfin, voilà, tout ça. Donc, c'est tout un travail, en fait, qui est... c'est un travail au quotidien, en fait, c'est un travail annuel, constant. Donc, et puis, bah, voilà, il y a des projets qui arrivent. Et c'est aussi la relation qu'on établit avec les partenaires, notamment avec la ville de Tours, avec qui on travaille depuis maintenant quelques années, où il y a un rapport de confiance. Donc, c'est ça aussi, c'est maintenir ces rapports-là avec les institutions ou les collectivités. Et puis, bah, d'année en année, qu'est-ce qu'on propose? On avait proposé un projet fou de proposer à la salle Hockey Game, c'était le 15 juin dernier, que les gens viennent dormir avec nous pendant toute une nuit, avec Inuit, parce qu'on avait fait des commandes de musique à dormir. Et donc les gens sont venus, ils ont emmené leur matelas, leur duvet, et ils ont passé toute la nuit à écouter 17
Il y avait pas loin d'une quinzaine de compositions, de musiciens aussi, c'est d'ailleurs. Voilà. Et c'était la première fois que la salle Hockey Game restait ouverte toute la nuit. Alors c'est une salle un peu mythique. Moi, quand j'étais étudiant à Tours, je crois que c'est la première salle où je suis allé voir des concerts et où j'ai joué. Et en fait, c'était pareil, c'était un rêve de se dire on va passer la nuit à la salle Hockey Game. Donc ça s'est fait et c'est super.
Et j'ai une petite question pour toi, Elsa. Est-ce que vous intervenez seulement en tant que un peu comité un peu administratif, ou est-ce que vous êtes un peu dans la logistique, dans l'organisation?
Ah, on est dans tout. En fait, c'est ça, on est un peu 360. On est vraiment dans tout. On organise des festivals ensemble et on organise vraiment un regard un peu croisé. C'est pour ça qu'on accompagne, en fait. Okay. C'est pour ça que j'utilise ce mot-là, parce que c'est un accompagnement plus. On fait ensemble.
A à Z, vous êtes présent
dans
toute la conception.
Voilà, on fait ensemble. Et ça, c'est important pour nous de faire avec.
On fait vraiment les choix stratégiques aussi, parce que c'est vrai que la chance d'être accompagnée par Elsa, par l'Asberg, c'est qu'elle est au carrefour aussi de différents métiers, différentes pratiques, différentes structures. Donc elle peut nous aiguiller, nous dire bah, là peut-être, oui, c'est trop tôt, voilà, là c'est pas le moment, là on peut aller voir tel réseau, tel partenaire. Et ça, pour nous, ça a pas de prix, parce qu'en fait, c'est vrai que nous, on est beaucoup des artistes, des rêveurs, on est dans nos mondes, mais en fait, on a besoin de cette équilibre avec des gens comme Elsa, quoi.
Ouais, je remets dans une réalité du concret, et le fait que je travaille avec plein d'autres équipes, c'est vrai que ça permet de mutualiser, en fait, de comprendre ce qui se passe avec d'autres, ce qui est possible avec Aptix ou pas. Enfin, voilà, c'est vrai que ça aide. En fait, c'est vraiment ce partage. Enfin, c'est comme ça que nous on a conçu notre structure, pour que on facilite, on soit des facilitatrices et qu'on permette à des projets de pouvoir exister. Mais avant qu'un projet existe, c'est des fois des années, en fait. C'est ça aussi, c'est montrer qu'en fait c'est vraiment un travail au quotidien de fourmi, et tous les projets, ça prend du temps. Et c'est vrai que les gens se doutent pas que créer un spectacle ou une forme artistique, ça prend du temps. Ouais. Mais c'est passionnant.
À un moment, tu te définissais comme accoucheuse, je crois. J'avais lu ça sur le.
On le permettait d'accoucher des spectacles, oui, tout à fait.
Belle image.
Ouais.
Merci à vous donc pour cette présentation. On va pouvoir y revenir après une pause musicale sur le 99.5 FM Radio Campus Tour. Qu'est-ce qu'on écoute, Samuel ?
On va écouter une composition de Phil Klein, Unsilent Night, du coup, un album enregistré en 2001 chez Cantaloupe Musique.
Oui, et c'est donc le morceau aussi, la Ronde des Mages. Ouais.
Vous venez d'écouter Unsilent Night, la ronde des mages de Phil Klein sur Radio Campus Tour, et il est temps à présent de nous intéresser de plus près à nos invités. Jean-Baptiste Appéré de l'ensemble Ptix et Elsa Maupeu de la structure Iceberg sont avec nous. J'aimerais aussi dire un petit mot à Antoine Molin, clarinettiste qui vient de nous rejoindre aujourd'hui, qui fait aussi partie de l'ensemble de Tix. Avant que Elsa nous quitte aujourd'hui, j'ai une petite dernière question à lui poser. Vous avez été en master à Arrêt Spectacle. Et est-ce que des étudiants viennent vers vous en tant que du coup, directrice de, d'Iceberg?
On est plutôt fondatrice, mais pas... Oh, non, on n'a pas
fondatrice,
le
voilà. Carrément.
Oui, oui, on a des étudiants qui viennent depuis quelques années nous demander des stages. Donc, quand on peut, en effet, on les accueille chez nous. Alors, je dis quand on peut parce que parfois, faut aussi avoir du temps pour bien accueillir les gens, mais avec grand plaisir. Et puis, c'est vrai que c'est un master, moi, que j'ai fait la première édition. Mes collègues ont fait les éditions d'après. Et en tout cas, on a vraiment envie en tout cas d'accueillir les étudiants pour qu'on leur montre aussi ce qu'est le travail avec des équipes artistiques indépendantes. Puisqu'en fait, dans le master, malheureusement, aujourd'hui, on leur montre un petit peu qu'une face du métier, c'est-à-dire les lieux labellisés et autres. Et en fait, il y a beaucoup de compagnies, d'équipes artistiques, et c'est encore un autre travail. Et souvent, ils se doutent pas du tout de tout ce que les équipes font et en fait du potentiel. Donc, on a vraiment envie de défendre ça. Pour nous, c'est très important. Donc, vraiment, on essaye d'avoir ce lien avec l'université et les étudiants pour expliquer. Et qu'après, quand ils ont fini leurs études, s'ils ont envie d'accompagner les équipes, parce qu'on a besoin, en fait, on a un secteur. Et nous, nos métiers, en tout cas mon métier, il y a beaucoup trop de gens qui sont partis. Donc, il y a vraiment besoin des gens, de nouvelles personnes qui viennent pour accompagner ces équipes. Donc, c'est quelque chose que nous faisons avec plaisir aussi.
Moi, je reviens donc à Unsilent Night. En France, c'est plutôt récent, mais depuis la création de cette déambulation sonore, il y a quand même dû avoir une évolution avec l'utilisation du numérique.
Oui, puisque la pièce date de 92, donc effectivement, on n'avait pas conscience que ça allait se développer si vite. Ça s'est assez bien fait, en fait, parce que donc au début, on était sur du radiocassette. Après, il y a eu les Discman qui sont arrivés, voilà, les mini-disques même. C'était une très courte période, mais finalement, les médias de diffusion ont changé. Et puis, en fait, on peut dire que ça fait une dizaine d'années que vraiment, Phil Klein le dit aussi, et puis sa production, faut y aller franchement avec les téléphones, les smartphones. Et puis, s'il y a une enceinte connectée, c'est mieux. S'il n'y a pas d'enceinte, on fait qu'au smartphone. En fait, ce qui est dans le projet même de Phil Klein, il n'y a pas de, on n'a pas de matériel prérequis. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que même si quelqu'un, arrive avec... il a le vinyle et puis il a une manière d'avoir un système portatif et il défile avec son vinyle, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un a un mégaphone et il met son smartphone au bout puis ça diffuse, c'est très bien aussi. Voilà. C'est ouvert à tout mode de diffusion. Et ce qui fait aussi qu'il n'y a pas de... C'est pas comme dans un orchestre classique où, par exemple, tous les violons doivent jouer à la même intensité, où on cherche une homogénéité. Là, en fait, nous, quand on part... parce qu'il y a un petit protocole en début de promenade, on ne règle pas les volumes, en fait. Donc, il peut y avoir des sons très forts, des sons moins forts, et on s'amuse avec ça.
Avant de continuer l'émission, merci à vous, Elsa, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Et merci à vous.
C'était un plaisir. Au cas où, s'il y a d'autres spectacles qui passent,
vous serez toujours la bienvenue.
Ah, merci. C'est pas long de tomber dans l'oreille d'une sourde.
Merci à vous encore. Et donc, on va continuer l'émission de notre côté. Quel a été l'impact de l'organisation d'un événement international comme Unsilent Night pour un ensemble basé à Tours et Tourangeau surtout?
En fait, je vais relayer ce que je disais tout à l'heure. Nous, on ne cherche pas à être original. Je pense qu'on est... on fait ce qu'on aime, en fait. C'est pas pour se différencier, c'est pas pour c'est pour être marginaux. Ce qui est important, c'est quand on montre qu'il y a d'autres choses possibles, voilà. Et je pense que ce qui est intéressant, là on a travaillé avec une compositrice d'origine taïwanaise qui s'appelle Lin Eliao. On a travaillé avec Sylvain Cassap, qui est un compositeur aussi, qui a un parcours très, très différent. Et ce qui est vraiment chouette à chaque fois, quelle que soit la nationalité, l'époque, etc., c'est qu'en fait, c'est vraiment des manières presque différentes de penser la musique. Et là, avec cette œuvre de Phil Klein, ou avec des œuvres minimalistes qu'on a jouées, ou avec Linni Liao, elle a une pièce pour tam-tam, donc un tam-tam, c'est une sorte de gong. En fait, nous, ça nous emmène dans des endroits où on n'a pas l'habitude. Et c'est ça qu'on veut partager avec le public, c'est se dire, on peut rester à domicile, parce qu'on joue beaucoup dans le département, mais en fait, on peut faire vraiment des chemins musicaux qui sont renouvelés. Voilà, donc c'est ça qui nous plaît dans le fait d'aller chercher des choses un peu différentes.
Et alors, Ptix, comment il s'est formé ?
Probablement autour d'une table, n'est-ce pas, monsieur Moulin ?
Pas du tout. Oh. Non, parce qu'on était collègues, en fait, localement, à l'Aubrière, à Fondette. Donc, avec l'école de musique. Et toute l'équipe du départ, en fait, c'est autour de... qui a été rassemblé autour des folk songs de Luciano Berio. Et donc, les instrumentistes recherchés pour l'occasion étaient ceux qui étaient membres de cet établissement. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, j'avais déjà entendu parler de Jean-Baptiste parce que je bossais, je faisais des arrangements avec des chanteurs, je faisais des trucs un peu tous azimuts déjà. Et puis là, il me contacte au même titre que les autres instrumentistes. Et c'est parti. C'était pour jouer cette pièce-là. Et je crois que tout le monde a répondu présent. Tu n'as eu aucun refus.
Ouais, on était... Donc c'est une pièce, les folk songs, pour sept instrumentistes. Sept instruments, ouais. Et donc que je dirigeais.
Percussion, harpe, violon alto, violoncelle.
Et
deux voix, percus. Clarinette, flûte. Oui, il y a deux percussions.
Ouais, c'est ça.
Je crois qu'on a tout.
Donc on a pris effectivement les gens qui étaient là. Parce que, en fait...
C'est déjà local comme démarche.
Ouais.
Tant qu'à faire, pas aller chercher des gens très loin. Et puis voilà, ça a commencé comme ça pour jouer cette pièce. Puis après, en se disant que on pourrait peut-être jouer encore,
on a pris goût tout de suite.
Et comment vous la concevez la musique contemporaine au sein de l'ensemble?
Déjà, on dit souvent les musiques contemporaines parce que c'est vrai qu'elles sont tellement variées. Ça dépend franchement à qui on s'adresse, c'est-à-dire que pour un public, la musique contemporaine, c'est la musique classique écrite aujourd'hui, c'est-à-dire que nous on joue des compositions qui en fait s'apparentent vraiment à des choses qui pouvaient se faire il y a 100, 150 ans, 200 ans, simplement le langage a un peu évolué. Pour donner un exemple, l'année prochaine on va avoir le plaisir d'accueillir Philippe Hersant, qui est un compositeur d'aujourd'hui, qui a peut-être une soixantaine d'années, je dirais, avec un projet autour du violoncelle et de la viole de gambe que va chapeauter Benjamin Garnier, qui est à la fois violoncelliste dans notre ensemble et professeur au conservatoire de Tours. Et Philippe Hersant, il a une écriture qui est très classique. Enfin, quand on l'écoute, on peut entendre des choses un peu début 20e siècle, assez modales. Ça peut faire penser à le groupe des Six, même du Poulenc, enfin voilà, qui a une figure assez connue ici. Donc ça, c'est un aspect. Après, il y a des choses extrêmement brutistes qui sont vraiment dans des démarches radicales contemporaines qui s'inspirent plus de l'électro, qui viennent de Pierre-Henri, de Stockhausen, où là, pour le coup, on est vraiment sur la technologie mise au service de pattes sonores. Il y a des démarches comme Phil Klein qui sont... Enfin, vous avez entendu dans la ronde des mages, presque un peu new age. Enfin, on a l'impression d'être sur des choses un peu pop. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile de résumer ce que c'est que la musique contemporaine, parce qu'il y a vraiment des déclinaisons diverses. Et puis Antoine, qui a joué beaucoup de pièces,
c'est jamais la même approche. En fait, s'il y a quelque chose qui va rassembler tous ces compositeurs et ces compositrices, c'est que... Il y a la recherche d'un sens, il y a la recherche d'un langage, la recherche d'un geste. Donc après, on utilise bien ce que l'on veut. Parce que comme Jean-Baptiste parlait de musique électronique et de bruitisme, ça ouvre des portes monumentales. Mais acoustiquement, on peut faire déjà beaucoup de choses avec nos instruments qui ne sont pas explorés dans les musiques du 17e, 18e, 19e. Donc là, on apprend réellement à utiliser ce qu'on appelle des modes de jeu pour produire des sons qui sont parfois plus une recherche d'énergie, de gestes, là encore, que de quelque chose qui va être purement précis, défini. On a des notations qui sont là pour indiquer vers quoi on va aller, mais en aucun cas on va avoir une restitution selon l'instrumentiste qui va le pratiquer, qui va être exacte et qui va être la même. Donc c'est... C'est ça aussi, les individus s'approprient les choses. En fait, on n'a pas tous et toutes la même énergie à donner. Quand on est instrumentiste, on n'a pas du tout la même approche. Enfin, On peut être très formaté, mais une fois qu'on sort un petit peu de sa zone de confort, qu'on va explorer les champs même improvisationnels, chacun, chacune va se découvrir et puis yalla, quoi. C'est parti.
Ouais, ce qui est super, c'est que c'est de la musique écrite. Bon, nous, on joue de la musique écrite, on va dire, depuis 50 ans maximum, et dont on peut rencontrer les gens qui l'écrivent. Enfin, je dis écrire pas au sens de mettre des notes sur une partition, mais au sens de la composer. Et en fait, ça a pas de poids. Enfin, si on pouvait rencontrer Mozart ou Poulenc et leur demander comment jouer leur musique, bah, ça serait génial. Mais aujourd'hui, on a des gens de 15 à 85 ans qu'on peut contacter, qu'on peut rencontrer et leur demander, bah, en fait, qu'est-ce que tu as voulu dire là ? Comment on joue ça ? Qu'est-ce que ça raconte ? Et ça, c'est vraiment...
C'est une proximité qui est importante dans la recherche musicale.
C'est exceptionnel.
Ouais, c'est génial. C'est presque, pour nous, c'est une chance au quotidien, en fait.
Ouais, je parle tout le temps, c'est mieux de choisir le micro. Non, c'est exceptionnel comme chance, en fait. Très clairement, il y a parfois des restitutions écrites. Voilà, comment s'adresser à tout le monde et arriver à être interprété par le plus grand nombre en réduisant ça à une simple phrase avec des notes, des rythmes et des silences. Et puis un petit mot au-dessus qui dit... qui essaie de définir une atmosphère, une ambiance.
Et on parlait beaucoup d'évolution, d'avancées technologiques. Est-ce que ça a un impact dans la musique contemporaine en général et même dans votre activité en tant qu'ensemble ?
Oui, alors d'ailleurs, ça peut être la technologie aussi sur la facture des instruments qui ont beaucoup bougé. Hein. Antoine, il joue une clarinette. Enfin, du coup, je suis un clarinettiste aussi. C'est, finalement, le modèle, il est posé depuis... 200 ans presque, enfin environ.
Oui,
mais en fait, il est en constante amélioration. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des choses qu'on peut jouer qu'avec un certain type de clarinette, par exemple. Voilà. Donc sur des instruments déjà acoustiques traditionnels, il y a toujours des avancées. Et voilà, on est en lien constant aussi avec des facteurs, des factrices, des luthiers pour faire voilà, des modifications. Je sais qu'on a Christophe Rostand qui joue de la trompette chez nous, par exemple, il a une trompette à double pavillon. C'est-à-dire, il peut envoyer le son devant, derrière, un peu au-dessus. Voilà,
pas ça, simultanément, c'est... ça s'alterne.
Ouais, il faut voilà, choisir
un petit système.
Donc ça ouvre forcément voilà, c'est ce qui donne envie aussi à des gens de composer cet instrument. Et après, c'est vrai que depuis les années 50, tout ce qui est enregistrement, diffusion, ça a été intégré dans la musique, en fait. Et donc, nous, on s'en sert parce qu'on adore ça, diffuser sur des haut-parleurs, parce que voilà, c'est aussi jouer un peu avec ses repères sensitifs, auditifs. Voilà, l'enregistrement, c'est très important. Parce que, pourquoi on se servirait des échantillons, des samples dans des musiques urbaines comme le hip-hop et on ne le ferait pas dans des musiques plus écrites. Et en fait, il y en a plein qui le font.
Et comment vous percevez l'importance d'Unsilent Night dans la scène musicale contemporaine ? Question qui fait sourire.
Ouais. Je dirais que c'est un peu vintage. C'est-à-dire... donc maintenant, ça a été écrit il y a plus de 30 ans. Et c'est vraiment une époque. Donc moi, quand je le prends, c'est vraiment un objet un peu archéologique. Même si,
carrément archéologique.
Ouais, c'est plus des ghetto blasters, c'est des smartphones connectés. Mais en fait, les sons, c'est quand même les sons des années 90. Et ça, quand Antoine il joue une pièce des années 90, il peut le jouer avec un son de maintenant à son instrument. Mais là, les bandes qu'on diffuse, elles sont fixées. Hein. C'est vraiment comme si on prenait un CD des années 90. Donc il y a un son typique. Mais j'ai envie de dire, ce qui est chouette, c'est que par rapport au contexte de Noël, qui est un moment très conservateur, enfin très traditionnel, où ce qu'on aime, c'est finalement revivre chaque année des rituels, des cérémonies. On ne sait pas trop si c'est chrétien, païen, tout se mélange. Et en fait, c'est la joie d'être ensemble et de traverser l'hiver, hein, on ne va pas se le cacher. Et bien en fait, cette pièce, Unsilent Night, elle joue toujours cette fonction-là. C'est-à-dire, on est tellement content de se les cailler dans le froid. Il peut faire 0 degré, on est en train de déambuler, là. On ne sait pas trop si les gens vont nous regarder, ce qui se passe. Mais en fait, il y a un truc de se retrouver. On termine par effectivement une boisson chaude. Et ça, c'est magique. Et en fait, ça n'a pas d'époque. Enfin,
ça a toujours existé. C'est quelque chose d'intemporel, en fait.
Ouais, et c'est pour ça, c'est très bien d'avoir choisi la ronde des mages, parce que on est exactement comme les rois mages, en fait. Nous, ce qu'on amène, c'est pas des trésors à un enfant, mais c'est de la musique aux gens qui sont dehors et qui n'ont rien demandé.
Voilà. Moi, tout à l'heure, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, quand tu parlais des médias et de l'utilisation de ce qu'on avait, peu importe, sans régler le volume, c'est parti. Ça me faisait penser typiquement à des personnes qui prendraient la cloche qu'ils ont, et puis de sortir tous avec sa cloche, et puis on y va. C'est un moment de joie, quoi.
On va faire une petite pause sur Radio Campus Tours 99.5 FM. On va écouter un extrait du concert du 30 novembre 2024 avec Maxime Montavoni-Vanni à la salle des fêtes de Sainte-Radegonde. C'est maintenant sur Radio Campus.
C'était Rupture et Iridescence de Maxime Montavoni, donc dans un extrait du concert du 30 novembre sur Radio Campus Tours, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez et avec nous Jean-Baptiste Appéré et Antoine Moulin de l'ensemble Ptix. Elsa Maupeu de la structure Iceberg était aussi avec nous en début d'émission. Et donc Rupture et Iridescence, c'est un morceau qui, vous nous disiez Jean-Baptiste, est interprété à l'électronique sur des contrôleurs qu'il a lui-même conçus. Et pour en revenir donc à l'actualité de l'ensemble Ptix, il y a donc un album qui sort aujourd'hui et qui s'appelle Nous. Nous, ça vient donc du grec et il y a une notion d'intellect dans ce terme. Quelle idée vous souhaitiez développer avec cet album ?
Il y a évidemment un jeu de mots avec nous, parce que donc on a fait un premier album en 2017. Et pour cet album, finalement, qui a été enregistré assez vite après, puisqu'on l'a enregistré en 2020, je crois, de mémoire, on souhaitait vraiment donner une photographie de l'ensemble sur ce moment-là, en 2020. Qu'est-ce que nous étions quelle identité on voulait montrer de l'ensemble PTX, pas forcément aux gens qui viennent nous voir au concert, mais l'intérêt du CD, c'est aussi que ça peut s'écouter partout dans le monde. Donc c'était vraiment de dire nous en sommes là. Et c'est vrai que la notion grecque du nous, bon, qui est une notion un peu complexe, mais telle que moi, j'avais souvenir de mes vieux cours de philo, c'était l'idée de quelque chose qui nous anime et qui nous permet de prévoir la suite. Et en 2020, je pense que tout le monde associe cette année à quelque chose qui s'est passé mondialement, on savait pas du tout vers quoi on allait, tout a été un peu chamboulé, et finalement, c'était une chance aussi de se dire que... en tant que structure, en tant qu'entité, en tant qu'ensemble PTX, vers quoi on va aller et vers quoi elle va aller finalement la planète. Et donc le nous se résumait bien. Et alors c'est vrai que l'album a pris beaucoup de temps, parce que c'était il y a 4 ans. Il y a eu différentes péripéties dans la production. Donc aujourd'hui, nous sommes plus que nous étions en 2020, c'est sûr. Mais on est toujours très fiers des musiques qui sont dessus, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est des musiques bien sûr qu'on aime, mais aussi c'est des musiques de personnes, compositeurs, compositrices, avec qui on travaillait à l'époque et avec qui on travaille encore aujourd'hui. Donc ça montre la continuité, et je pense que par rapport à la fracture de 2020, dire qu'il y avait, on pouvait à la fois se renouveler et à la fois continuer, c'était cet acte qu'on voulait défendre.
Et donc par rapport au Covid, donc il y a eu son passage entre temps, comment est-ce qu'il a impacté la création de l'album ? Et je vais même rajouter, est-ce que ça a été du coup une source forte d'inspiration ? Par exemple pour toi, Antoine, en tant que clarinettiste.
La Covid, en fait, cette période-là, plutôt que... Non, pas du tout. J'en suis... Nullement. Non, moi, quand il s'agissait d'enregistrer ces pièces, et encore une fois, d'être parfois en présence des compositeurs et compositrices, on chérit ces moments-là. Là, il y a eu une forte présence de Charles Souzor, notamment, qui a été là tout le long de cet enregistrement, qui est quelqu'un vraiment très affectueux, vraiment adorable, qui est hyper précis, hyper attentif, qui est là, extrêmement bienveillant et qui veillait à ce que... on a fait ça avec lui, en fait. Et c'est bien plus important que tout ce qui pouvait se passer autour. Et puis voilà, on s'est localisé dans des espaces grands... On a profité de nos campagnes. Ça allait très, très bien. Ça a été l'occasion aussi, pendant cette Covid, de lancer des podcasts. Tu en as réalisé combien, Jean-Bas ? Des podcasts d'une heure.
Une vingtaine. Et, c'est vrai qu'on a trouvé des solutions. Après, on remercie vraiment, entre autres, les écoles de musique qui... les bâtiments étaient désertés. Enfin, n'étaient plus accessibles.
Donnait des cours en visio, quand même. Hein.
C'était
un fait, mais
voilà. Puis sur l'enregistrement, effectivement, il y a eu des moments où fallait, on avait donc le masque, après fallait l'enlever pour enregistrer. Enfin, c'était quand même assez absurde, on va pas mentir. Il y a une petite anecdote sur l'album, c'est qu'il y a une pièce qu'on a enregistrée et on n'a pas pu faire couper la clim. Donc
on l'entend au fond.
Ouais. Impossible. Voilà. La pandémie sera invitée sur l'album avec ce petit souffle qui est là, mais on pouvait vraiment pas faire autrement.
Qui pose un décor. Un décor intersidéral, intergalactique. C'est un indice.
Et quels musiciens et compositeurs sont rassemblés sur cet album ?
Donc, en compositeur, il y a deux compositeurs. Charles Ouzor, qui est suisse, et Sylvain Cassap, avec qui on travaille depuis plusieurs années. La compositrice Sophie Lacaze, pareil, avec qui on collabore depuis plusieurs années. Donc sur chaque Turquin, Charles et puis Sylvain une pièce et Sophie Lacaze, il y a deux pièces. Donc pour la première fois au disque, donc ça c'est aussi ce qu'on propose à ces personnes, c'est de, d'enregistrer leur musique pour qu'elles puissent être écoutées et peut-être jouées par d'autres interprètes. Voilà, on a fait un hommage à un compositeur japonais qui s'appelle Yoshihisa Taira, parce qu'on voulait une pièce du répertoire, donc on a choisi cette pièce pour deux flûtes. Petite pièce amusante pour deux flûtes aussi de Denis Schuller, qui est un autre compositeur suisse, qu'on ne connaît pas personnellement, mais c'est une pièce qui dure 1 minute 30, enfin, pour une flûte basse et un piccolo, donc c'est un objet sonore assez incroyable. Et puis, je dois oublier quelqu'un, oui, alors, oui,
Tan Lingyu.
Tan Lingyu, alors qu'il y a une histoire incroyable. Depuis quelques années, nous, ça correspond aussi au niveau des musiciens à une nouvelle équipe. Enfin, il y a des gens qui sont arrivés dans l'ensemble, entre autres une percussionniste qui s'appelle Yu Xuan Pai, qui a été formée au CNSM de Lyon. Et quand on a commencé à réfléchir à l'album, Yu Xuan, elle avait envie de jouer une pièce d'une étudiante avec qui elle avait été en étude à Taipei, je crois.
À Taipei.
Ouais, c'est ouais. ça. Qui s'appelle Tan Lingyu.
Percussionniste Tan également. Lingyu,
ouais. Et donc c'était assez beau comme geste parce que en fait cette compositrice Tan Lingyu a écrit que cette pièce et après elle a plus jamais écrit parce que en fait voilà elle faisait des études de percu, elle a fait une pièce et donc Yu Xuan, notre percussionniste, l'a joué et c'était hyper beau sur cette période là de remettre en mouvement une pièce très très ancienne mais qui lui rappelait aussi ses moments d'études.
Et donc, ce qui caractérise du coup cet album et même les créations en général de Ptix ?
Il y a de la clarinette.
Ouais. Il y a beaucoup de percussions. Non, mais la question était posée aussi des musiciens, des musiciennes présents sur l'album. Donc, ça donne ouais. une couleur. Mmh. Il y a un quatuor de flûte. Ouais. Donc, on a quatre flûtistes. Donc, Pauline Van Acte, Marie Chazelle, Sylviane Leroux. Et puis, c'était Marie Perrin, qui par ailleurs est chanteuse dans l'ensemble. Voilà, ça c'est important de le souligner. Des duos de flûte qui étaient avec donc Marie et puis Pauline. Donc Yu Xuan joue une pièce de Sophie Lacaze qui s'appelle Maillet, vibraphone solo. Joue cette pièce de Tan Lingyu, vibraphone solo. Ensuite, on va trouver le Stromil de Sylvain Cassap où là c'est Yu Xuan à la grosse caisse. Yu Xuan est presque partout quand même, hein. Sauf sur les pièces avec flûte. Voilà. Et donc là, grosse caisse et clarinette basse. Grosse caisse symphonique, hein. C'est pas une grosse caisse avec une pédale comme on trouve sur une batterie. Et puis et ensuite, il y a un quatuor à cordes qui est présent dans le septuor Ballet imaginaire Go de Charles Houzor. Donc là, on va trouver Pauline Duisme au violon, je l'ai quitté tout à l'heure, Pierre Malle au violon, et puis ensuite Anthony Chéneau à l'alto, Benjamin Garnier au violoncelle, Catherine Kwan au piano, et puis aux percussions. Yu Xuan Pai et moi-même au clarinette. Voilà, direction Jean-Baptiste.
Ce qui fait 12 instrumentistes et grosso modo, c'est pas tout l'ensemble. Enfin, on est plutôt une quinzaine très réguliers. Après, on peut avoir des collaborations extérieures, mais c'est vrai que c'est un nombre 12 qu'on aime bien produire. Voilà,
on a failli faire 13, mais c'est pas le bon.
Et alors, vous avez donc diverses activités, directeur artistique, enseignant, intervenant, plutôt multicasquette. Où est-ce que vous trouvez votre inspiration ?
Je crois que la plupart du temps... Bon, facile comme question, ça. Je crois que j'aime beaucoup proposer les musiques ou les spectacles de ce que j'aimerais voir. Voilà, très simplement. J'ai eu des chocs... émotionnel quand j'étais plus jeune, ado, jeune adulte, etc. Des choses où j'ai été vraiment transpercé par des musiques, par des spectacles. Et cette émotion-là, j'ai envie de la retrouver, pas pour la revivre moi-même, mais de la repasser à d'autres personnes. C'est pour ça qu'on est tous quasiment enseignants dans l'équipe, là, et on travaille beaucoup avec des enfants. Et moi, j'ai l'impression que je suis très content que tous les âges nous écoutent, mais ce que j'ai envie de donner dans ces musiques, c'est en fait le transmettre aux plus jeunes, parce que finalement, c'est des pans de notre culture, de ce qui nous fait être ensemble, qui sont très peu connus, et c'est vraiment dommage de passer à côté.
Merci à vous pour cette merveilleuse émission. Alors, on rappelle que Unsolid Night, c'est ce jeudi 19 décembre à 18h au jardin de la préfecture et que l'album Nous sort aujourd'hui. On peut retrouver du coup l'album où et comment on retrouve l'ensemble Ptix?
On a un site ensembleptix.com qui est assez alimenté, qui est bien à jour. On est très présent sur les réseaux Facebook, Instagram, un peu LinkedIn. Si on a une page Bandcamp, une page SoundCloud, voilà, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Et l'album, en fait, vous pouvez regarder les derniers posts sur les réseaux ou sur le site de l'ensemble, il y a une page dédiée. Unsilent Night aussi, je vous renvoie sur notre site, il y a une page dédiée qui vous explique toute la démarche, comment bien se préparer, est-ce qu'on peut télécharger un morceau avant, etc. Voilà, qui explique pour bien se préparer à l'événement. Voilà, de façon PTYX, vous tapez ça dans un moteur de recherche et on tombe assez vite avec plein d'entrées.
Donc merci beaucoup à nos invités du jour, Jean-Baptiste Appéré, Antoine Moulin et Elsa Maupeu, d'avoir été avec nous. Le podcast de l'émission sera donc à retrouver sur radiocampustour.com et on se laisse avec une touche de musique, donc avec un titre de l'album Nous qui sort aujourd'hui, intitulé Stro 1000.
J'ai des radios campus, Radio Campus Tour.